débuter tout de suite. On va ouvrir cette journée avec Nolwenna Monnier qui vient de l'Université de Toulouse 3, l'IUT Paul Sabatier, qui mène ses recherches sur les Plantagenets, la légende arthurienne. Et justement, elle va traiter ce sujet à travers le filtre de la thématique donc dette et endettement. Donc je suis très contente. D'ailleurs, j'ai complètement oublié de vous, de tous vous remercier d'être venus de loin, d'avoir bravé pas les éléments, mais les manifestations, les grèves. Et je suis très contente que vous soyez tous arrivés à bon port. Voilà. Et je vous souhaite une très très bonne journée à Nantes. D'autant plus que le soleil est au rendez-vous. Donc que demander de plus. Voilà. Je cède tout de suite la parole à Nolwenna.
Merci Agnès. Je vais donc vous parler de dette et d'endettement. Alors j'étais très ambitieuse au moment où j'ai fait ma proposition à Agnès et j'avais mis dans les ouvrages de Gerald of Wells. Je vais me contenter de l'Itinerario Cambriae qui m'a déjà donné beaucoup de travail. Donc moi je ne vais pas vous parler du tout d'espèces sonnantes et trébuchantes, mais plutôt d'endettement symbolique et au sens figuré du terme. Comme vous le savez peut-être, le XIIe siècle plantagenêt fut une période florissante pour la rédaction de chroniques diverses. Elles furent soit purement historiques, soit purement contemporaines, soit elles mêlaient ces deux aspects. Cette diversité en fait leur richesse. Comme l'établit Reto Bezzola, depuis les Carolingiens, voire depuis l'Antiquité, il n'y a plus en Occident, un centre littéraire de l'importance qu'aura la cour d'Henri II. Henri II était un roi normano-angevin régnant sur un territoire s'étendant sur les deux rives de la Manche, de l'Irlande aux Pyrénées. Henri II et son entourage encouragèrent un contexte lettré, propice donc à la rédaction d'ouvrages divers. Dans ce contexte politique et géographique spécifique, la chronique devient objet de légitimation dynastique, de propagande expansionniste et de résistance aux voisins français. Citer ces sources est une composante incontournable des chroniques, et celle du XIIe siècle plantagenêt ne déroge pas à la règle. Ainsi, Bède et son Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, ou encore les Annales Cambriae, sont abondamment cités, donnant ainsi de la légitimité aux chroniques qui avancent cet héritage littéraire. Certains ouvrages ne citent pas certaines de leurs sources, mais elles sont assez facilement repérables à leur lecture attentive. Mais ces chroniques ont un autre type de dette, celle à leur commanditaire. Ces ouvrages sont en effet abondamment dédicacés au roi, à la reine ou à quelque autre grand du royaume, ecclésiastique ou laïque. Ce double endettement est un classique du monde médiéval. Dans cette perspective, j'ai eu envie de me tourner vers les ouvrages de Gerald of Wells. Gerald of Wells est né en 1145 à Manorbier dans le Pembrokeshire et mort en 1223 sans doute à Lincoln. C'était un auteur particulièrement prolifique puisqu'il est auteur d'une vingtaine d'ouvrages. Ce chroniqueur répond en partie à notre problématique mais il échappe néanmoins à cette règle. En effet, alors qu'il dédicace abondamment ses livres à divers commanditaires qui varient au fil des chroniques et des versions d'un même ouvrage, sa dette envers les anciens ne s'exprime pas. La nature même de certains de ces ouvrages ethnologiques peut l'expliquer en partie. Je me propose dans cette communication d'examiner de plus près l'un de ces ouvrages ethnologiques, l'Itinerario Cambriae, afin de distinguer si l'endettement de Gérald envers ses sources et envers ses commanditaires présente ou non une spécificité toute géraldienne. L'Itinerario Cambriae fut rédigé à l'occasion du voyage au Pays de Galles de Baldwin, évêque de Canterbury, en 1188 pour prêcher la croisade qu'Henri II avait décidée en début de cette même année. C'est un récit de voyage qui décrit au jour le jour l'itinéraire emprunté par les deux ecclésiastiques, les personnes qu'ils ont rencontrées et les actions menées, principalement bien sûr les prêches de l'évêque pour convaincre la foule des fidèles de se rendre en Terre Sainte avec le roi. Mais cet ouvrage comporte également un grand nombre de passages sur l'histoire même des endroits traversés ou des personnes rencontrées. Ce mélange des genres fait de l'Itinerario un ouvrage unique à la croisée de l'histoire, de la géographie, de la sociologie, du reportage journalistique et des mythes gallois. Comme le déclare Bartlett dans son ouvrage, His ethnographic writing were therefore highly innovative. Mais intéressons-nous tout d'abord aux dédicaces contenues dans cet ouvrage, puisqu'elles semblent correspondre le mieux à l'endettement des chroniqueurs envers leurs commanditaires, ou du moins ceux qu'ils désignent comme tels. Le prologue ou la préface, ou devrait-on dire les préfaces, puisqu'il existe trois versions de l'ouvrage de Gerald, est bien entendu, comme l'usage le veut, dédicacé. La version 1 du manuscrit nous pose problème, puisqu'il manque la première préface. Elle est néanmoins présente dans le manuscrit B et comporte une dédicace à William de Longchamp, évêque d'Ely. La version 2 comporte une dédicace à Hugues, évêque de Lincoln. Et enfin, la version 3 adresse le livre à Étienne, évêque de Canterbury. Trois évêques différents sont ainsi impliqués au fil des versions de ce même ouvrage. Ce phénomène n'est néanmoins pas rare, puisqu'un auteur changeait facilement de dédicataire au fil des années, tout simplement parce que souvent ce dernier était mort, donc il n'y avait plus grand intérêt pour le chroniqueur de lui dédicacer un ouvrage. On peut noter qu'aucun membre de la cour Plantagenêt n'apparaît dans ses dédicaces, alors que Gérald était clairement, dans cet épisode bien précis, un émissaire de la cour d'Angleterre. Baldwin n'apparaît pas non plus en tant que dédicataire, alors que c'est bien ce dernier que Gérald accompagne. On aurait pu logiquement penser qu'il serait le premier à être mentionné dans la préface, puisque Gérald est son plus proche compagnon de voyage et est au service de l'évêque. Mais si aucune dédicace à Baldwin n'est présente, Gérald lui rend néanmoins un bel hommage en ouverture de son ouvrage, multiplie les marques de respect tout au long de son récit et termine par un dernier chapitre quasi hagiographique. Nous pouvons par exemple trouver, je cite, « C'était un homme que tous respectaient et il était bien connu pour ses connaissances et sa piété. C'était au service de la croix, d'où vient notre salut, qu'il avait entrepris ce voyage d'Angleterre au Pays de Galles. » Gérald semble donc bien correspondre aux standards de la dédicace médiévale, choisir un grand du royaume et lui dédicacer son ouvrage dans l'espoir d'obtenir quelques faveurs. Le dédicataire devient ainsi souvent, sans doute, sans le savoir à l'avance, puisque nous n'avons que très peu de traces réelles de commandes d'ouvrage, endetté envers le chroniqueur qu'il a choisi comme victime, enfin pardon, comme dédicataire de son ouvrage. Intéressons-nous à présent à l'endettement de Gérald envers ses prédécesseurs. On peut clairement distinguer trois tendances dans l'ouvrage de Gérald: les sources bibliques, les sources antiques et enfin les sources médiévales. Alors qu'on aurait pu s'attendre en tant qu'homme d'église à ce que Gérald prétende majoritairement à des sources bibliques, anciens comme Nouveau Testament, on peut remarquer que l'équilibre entre les sources bibliques et les sources antiques est quasi respecté. On peut en effet noter une trentaine de références bibliques et 28 références antiques. La première référence reflète bien cette ambivalence, puisque dès le prologue, une double référence apparaît à Saint Jérôme et à Crésus, confrontation de deux grands personnages symboliques, le moine exemplaire de simplicité et de piété, et le roi extravagant dans sa puissance et son comportement. Nous reviendrons sur les références antiques qui questionnent les sources de Gérald sur plusieurs points. Intéressons-nous tout d'abord à ces références bibliques. Gérald attaque dès le livre 1, chapitre 1, en citant les proverbes de Salomon. Alors que le chroniqueur explique que Gwenllian, qui est une princesse galloise, essaye de dissuader son époux Rhys de prendre la croix lors du prêche de Baldwin, il cite Salomon, je cite, « Le cœur d'un homme projette son chemin, mais le Seigneur dirige ses pas. » Au livre 1, chapitre 2, Gérald se lance ensuite dans une critique des grands du royaume qui spolie l'Église et nomme très clairement Henri II comme le pire de tous. Il cite alors le Nouveau Testament et les Épîtres aux Corinthiens, je cite, « montrant qu'un petit peu de levain fait lever toute la pâte ». Une nouvelle fois, Gérald mélange biblique et antique. Au livre 1, chapitre 2, Gérald s'étend sur le comportement de William of Brose, je ne sais pas trop comment on prononce, le spoliateur de l'histoire qu'il rapporte, et l'excuse en disant que nul être humain n'est parfait. Il déclare alors, je cite, « comme le dit l'empereur, tout savoir et ne commettre aucun péché est un attribut divin plus qu'humain ». Gérald ne précise pas toutefois de quel empereur il s'agit, mais on verra que c'est une de ces tendances récurrentes. Il ne nous précise pas non plus les raisons qu'il mène à une telle conclusion. Mais plutôt que de dresser une liste de ces citations qui seraient fastidieuses et peu pertinentes, je vous propose d'analyser et de classifier ces citations. Commençons par l'Ancien Testament. Salomon est cité à trois reprises, deux fois pour ses proverbes, une fois pour ses ecclésiastes. Il est cité une quatrième fois, mais Thorpe, le traducteur, enfin l'un des traducteurs de Gérald, nous précise que c'est en réalité une citation de Saint Jérôme. Nous reviendrons aussi sur ce point. La Genèse est également citée à trois reprises. Une première est faite quand Gérald évoque Pharaon, puis à deux reprises au livre 2, chapitre 7. Enfin, une référence est faite au livre de Daniel, au premier livre des rois, mais de manière indirecte, puisque Gérald se réfère simplement à Élijah sans citer explicitement sa source. Nous avons donc 11 occurrences de l'Ancien Testament. Gérald s'intéresse également au Nouveau Testament, notamment à travers l'expression imprécise des Écritures. Les évangiles sont cités à quatre reprises, Matthieu, Marc, Jean, même si là la citation n'est pas précise, et enfin Jean une deuxième fois, qui se révèle également être la dernière citation contenue dans l'ouvrage de Gérald. Les actes des apôtres sont également cités à 8 reprises, de manière générale une première fois, puis à travers les épîtres aux Corinthiens, ceux de Jacques et ceux aux Romains, qui ne sont toutefois de nouveau pas explicitement mentionnés par Gérald, mais identifiés par Thorpe, et enfin à travers les missions de Saint Paul, soit 10 occurrences du Nouveau Testament, et qui devraient être quasi parfait une fois de plus avec les 11 occurrences de l'Ancien Testament. Gérald s'appuie également sur les écrits des pères de l'Église. Saint Jérôme est cité à deux reprises, une fois explicitement dans la vie des pères et une seconde fois sans que Thorpe ait pu retrouver la citation incluse par Gérald. Saint Ambroise est également mentionné à deux reprises. Il est également cité à une troisième reprise de manière plus précise par Gérald, juste après que celui-ci ait mentionné Suétone, auteur romain du 1er et 2e siècle après Jésus-Christ, et citant textuellement le titre de son ouvrage « Habitude des créatures vivantes », précisant que saint Ambroise expose la même histoire dans son Hexaméron. Le même phénomène se reproduit avec saint Augustin, puisque bien que la citation soit peu fidèle à l'original, elle provient bien de « De Civitate Dei », alors que la seconde est attribuée à saint Augustin par Gérald. Enfin, Grégoire le Grand est cité deux fois, mais une des citations n'a pas pu non plus être retrouvée par Thorpe, l'autre provient des Epistolae. Les pères de l'Église sont donc cités à 11 reprises, même si certaines citations sont introuvables ou non identifiables, mais nous reviendrons sur ce point un petit peu plus tard. Gérald fait donc preuve d'une régularité à toute épreuve. 11 citations de l'Ancien Testament, 10 citations du Nouveau Testament et 11 citations des Pères de l'Église. Cet équilibre est-il volontaire? Ce serait prêter certainement à Gérald une stratégie narrative dont nous ne pouvons être sûrs. Quoi qu'il en soit, une trentaine de références bibliques sont donc présentes dans l'ouvrage, un endettement certain qui permet à Gérald de justifier, commenter, amender les comportements humains qu'il décrit dans son livre. Intéressons-nous à présent à sa dette envers les antiques. Plongeons donc avec délectation dans ces sources antiques de loin les plus nombreuses. Nous avons tout d'abord un certain nombre de références sans citation d'ouvrage. Gérald évoque indirectement l'Iliade en mentionnant Quintus de Smyrna, donc l'auteur de la Post America, lorsqu'il compare Gwenllian, toujours la même princesse galloise, à Penthesilea, la reine des Amazones. Gérald fait également référence à Galen, représentant la médecine, et à Justinien, représentant le droit. Il fait enfin une référence à Marius, Caius Marius et à Virgilius Maro, sans nous expliquer qui sont ces personnages et en quoi leur rôle est important dans le récit qu'ils nous livrent. Mais nous avons bien sûr également de vraies citations, même si souvent Gérald n'est pas très précis sur sa source. Et nous avons un gagnant, Ovide, cité 13 fois à travers 6 ouvrages différents, dont Gérald semble avoir une connaissance assez étendue. Vient ensuite Virgile, cité 10 fois à travers 3 ouvrages différents. Enfin Horace est cité à 6 reprises à travers 3 ouvrages différents également. Mais la culture de Gérald ne se limite pas à ces 3 auteurs. 10 autres auteurs sont cités d'une à 3 fois, tels Sénèque, Pline ou Cicéron pour les plus connus. Gérald fait montre d'une bonne connaissance des sources antiques, même si certaines citations n'ont pas pu être retrouvées par Thorpe, notamment l'une de Sénèque et l'autre de Quintilien. Tout comme ses sources bibliques, ses sources antiques émaillent, rythment le récit de Gérald, lui permettent de crédibiliser sa démarche intellectuelle et offrent à ses lecteurs des bases fondamentales de réflexion. Chapitre 1, livre 3, Gérald nous précise d'ailleurs que 4 auteurs, Ovide, Horace, Lucan et Pétronius en l'occurrence, sont d'accord entre eux. Cette accumulation de sources tendant à la crédibilité de ce qu'affirme par ailleurs Gérald. L'endettement de Gérald envers ses sources est clair, si ce n'est clairement exprimé. Tournons-nous maintenant vers les sources médiévales de Gérald. Certes, nous l'avons évoqué, Gérald ne reste pas sans citer de sources médiévales, mais il se distingue néanmoins nettement de ses collègues contemporains dans la mesure où tout d'abord il ne s'en vante pas, et ensuite il ne l'expose pas clairement dès son prologue, alors que c'est le schéma habituellement respecté. En effet, au contraire d'autres chroniqueurs de la même période, il ne cite pas explicitement ses sources, ne se revendique pas de tel ou tel auteur. Les plus cités à l'époque sont sans nul doute Bède et son Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum, l'Historia Britonum ou encore les Annales Cambriae, qui pourtant, dans le cas de Gérald, devraient tout naturellement s'imposer au vu même de son sujet. Mais bien au contraire, Gérald ne se revendique d'aucun, ne rend hommage, comme il est l'usage, à aucun de ses prédécesseurs. Il faut attendre le livre 1, chapitre 2, pour en voir une allusion à Bède et aux Annales Cambriae. Néanmoins, le traitement de ces deux œuvres est bien différent, alors que Gérald cite nommément les Annales Galloises, Bède n'est qu'une allusion. En réalité, le même personnage est cité par Gérald et par Bède à 3 reprises, mais rien ne nous indique clairement que Gérald se soit inspiré de Bède. Il ne le revendique pas, en tous les cas, et cet élément d'histoire pourrait parfaitement provenir d'une autre source, notamment de récits oraux que, de par sa naissance ou par ses fonctions variées au pays de Galles, Gérald a très bien pu avoir entendu. On assiste au même phénomène lorsqu'au livre 1, chapitre 10, Thorpe fait clairement le lien entre une liste donnée par Gérald et une autre, différente toutefois, donnée dans la triade 85 des Trioèdes in Hispriden. Certes, dans les deux cas, une liste de trois châteaux constituant les trois lieux de la cour, dans un cas celle d'Arthur et dans l'autre celle des chefs gallois, est présente, mais sans plus de ressemblance. Le chiffre 3 est hautement symbolique, mais largement répandu dans d'autres circonstances, sans qu'on puisse voir ici, à mon avis, une relation directe entre le texte des Triades Inis Priden et le texte de Gérald. Bède est par contre clairement nommé au livre 2, chapitre 1. La référence est claire et franche. Je cite « Bède a clairement exposé cela, comme nous pouvons le lire dans son Historia Ecclesiastica ». Néanmoins, Gérald ne profite pas de ce passage pour encenser l'auteur comme d'autres l'ont fait. Enfin, il est un auteur avec lequel Gérald entretient des rapports ambigus. Rarement cité de manière positive par ses contemporains, que ce soit William of Malmesbury ou encore William of Newburgh, tous deux fervents détracteurs de ses récits, Geoffrey of Monmouth a un statut à part pour Gérald. Alors qu'il le critique parfois fortement, il s'en inspire également lorsque les faits cités l'arrangent. On sait que l'ouvrage de Geoffrey circula beaucoup en Angleterre et que Gérald, vu les allusions faites dans ses propres ouvrages, ne peut pas ne pas l'avoir lu. Dans un premier temps, livre 1, chapitre 5, Gérald fait deux allusions à l'ouvrage de Geoffrey. Une nouvelle fois, la première est cachée, et c'est Thorpe qui dresse un parallèle entre la description faite par Geoffrey et celle de Gérald. Les deux sujets sont certes proches, mais les descriptions suivent toutefois une trame assez classique, faisant toutes deux allusion à la magnificence des palais et à Rome, cité suprême par excellence. Le raccourci est certes séduisant, mais un peu rapide à mon goût. La deuxième allusion est beaucoup plus directe, puisque Gérald cite textuellement la prophétie de Merlin. Je cite « Minerva shall be dressed in the pall of the city of the legends ». Le même phénomène se reproduit au livre 2, chapitre 8. Puisque Gérald cite de nouveau Geoffrey, sans toutefois le citer nommément, puis il entreprend une longue explication sur les deux Merlin. On peut ainsi lire, je cite, « Pas très loin de la source de la Conway, là où les montagnes de Snowdown commencent et s'étirent jusqu'au nord, se dresse Dinas Emrys, ce qui signifie le haut de la colline d'Ambrosius, où Merlin prophétisa, alors que Vortigerne était assis au bord du bassin. » Geoffrey s'étant inspiré pour ce passage de l'Historia Brittonum, Gérald s'en inspire donc également indirectement, sans la plus la citer textuellement que ne la citer Geoffrey. Nous ignorons donc quelle est sa source réelle, et l'ouvrage de Geoffrey ou l'Historia Brittonum. L'Historia Brittonum est à nouveau cité par Gérald, livre 2, chapitre 3. Si le premier passage relevé par Thorpe me semble un peu léger, en réalité Crugmore est mentionné par l'Historia comme par Gérald, mais en tant que lieu significatif du Pays de Galles, nulle étrangeté à cela, le deuxième passage est une réelle citation de l'ouvrage, que Gérald reprend littéralement à son compte, puisqu'il le cite sans prendre de précautions et sans mentionner sa source, comme il a pu le faire précédemment avec d'autres ouvrages. Une nouvelle fois, au livre 2, chapitre 4, Thorpe affirme que Gérald reprend des éléments de Geoffrey et de Bede. Dans ces passages, Gérald, sans citer ni l'un ni l'autre, donne des éléments précis de la géographie et de l'histoire du Pays de Galles. Je serais moins affirmatif que Thorpe, dans la mesure où même si Gérald avait sans nul doute lu Geoffrey et Bede, sa connaissance personnelle du Pays de Galles lui permettait de faire ses remarques à propos de son propre pays. Remarques somme toute assez générales. Parvenir à distinguer ce que Gérald produisait de ses propres connaissances familiales et culturelles et de ce qu'il a appris des ouvrages de Geoffrey et de Bede est une tâche malheureusement impossible à accomplir aujourd'hui, puisque l'auteur n'a pas pris le soin de nous le préciser au moment de la rédaction de ses ouvrages. Mais s'il est bien une source inédite dans l'ouvrage de Gérald, c'est bien lui-même. En effet, tout au long de son ouvrage, on trouve de multiples références à ses propres ouvrages, qu'il cite parfois abondamment. En de longues digressions, l'homme en est un spécialiste, revendiquant donc ses propres travaux comme source pour ce nouvel ouvrage. Nous en avons plusieurs illustrations. Par exemple, au livre 1, chapitre 2, Gérald nous rapporte une histoire qui s'est déroulée à l'église d'Auden et une autre qui a à voir avec le psautier de Kendrada, puis encore une autre sur le torque de Saint-Synog et le corps de Saint-Patrick, sans donner aucune de ses sources, nous y reviendrons. Néanmoins, pour le corps de Saint-Patrick, le chroniqueur cite son propre ouvrage, La Topographia Hibernica, comme sa principale source, expliquant qu'il a déjà rapporté cette histoire dans cet ouvrage. Et Gérald de citer son propre ouvrage sur plus d'une vingtaine de lignes, mais toujours sans citer sa source pour la Topographia. Et Gérald d'enchaîner avec un nouveau paragraphe qu'il ne revendique pas comme une citation de son propre ouvrage, mais qui est selon Thorpe une libre adaptation, toujours de la Topographia, livre 3, chapitre 33. Avoué ou non, Gérald reste une bonne source pour lui-même. Nous trouvons d'ailleurs le même phénomène au livre 1, chapitre 3, lorsque Gérald nous déclare, je cite, « comme je l'ai déjà expliqué dans ma Topographia Hibernica ». Et il poursuit en citant à nouveau un long passage de son propre ouvrage. D'autres exemples peuvent être donnés que je ne mentionnerai pas maintenant faute de temps, mais que j'inclurai en note dans l'article. Et tout le phénomène se reproduit à 8 fois à travers l'ouvrage. Un peu plus loin, toujours au livre 1, chapitre 2, Gérald poursuit son autopromotion, puisqu'il explique comment, en tant qu'archidiacre de Brecon, il a non seulement offert son ouvrage, la Topographia Hibernica, à Baldwin lors de leur voyage, mais qu'encore l'évêque, qu'il a largement censé en début d'ouvrage, le lit-il, ou se le fait-il lire, pendant ce même voyage, Gérald nous précisant qu'il le termina à son retour en Angleterre. Mais la Topographia est l'ouvrage dont Gérald, s'est le plus clairement auto-inspiré, il n'est pas le seul. Ainsi, trois références sont-elles faites à la Conquestu Hibernica, qu'il appelle dans cet ouvrage-là l'histoire vaticinale, au livre 2, chapitre 1 et au livre 2, chapitre 7, où il déclare, je cite, « J'ai rapporté ces faits dans ma Conquestu Hibernica ». La référence est encore plus complète au livre 2, chapitre 10, puisqu'à la fin d'un long paragraphe cité de son propre ouvrage, il termine par, je cite, « Voici ce que j'ai écrit dans ma Conquestu Hibernica ». Si Gérald ne revendique ici que cette source-là, Thorpe nous indique dans ce passage que ce passage est certes présent dans la Conquestu Hibernica, mais également dans sa description Cambriae. Et comme de rien ne semble pouvoir arrêter Gérald, celui-ci reprend un paragraphe de la description Cambriae, nous déclarant au livre 2, chapitre 1, je cite, « Ma vie de Saint-David donne de nombreuses preuves de tout cela ». Si Gérald n'encense pas ses prédécesseurs, il est par contre totalement capable de le faire pour ses propres ouvrages. Gérald aime donc ses ouvrages et le fait abondamment et clairement savoir. Mais si Gérald sait se faire souvent précis et impérieux dans ses démonstrations, il peut parfois faire preuve d'une grande imprécision qui brouille son discours. Que peut-on en effet extraire comme constante de toutes ces citations au-delà de leur rôle argumentatif dans l'œuvre de Gérald ? Il y a un premier phénomène récurrent. Beaucoup de références s'avèrent fausses ou introuvables. On connaît bien la difficulté pour nous chercheurs actuels de faire face à la disparition de certaines sources disponibles à l'époque de la rédaction de nos chroniqueurs. Néanmoins, ce phénomène est particulièrement important dans l'ouvrage de Gérald, et Thorpe le relève à plusieurs reprises, nous en avons déjà parlé. Mais au-delà de ces vides référentiels, un autre phénomène apparaît, l'imprécision. Le prologue à lui seul regroupe 13 citations. Sur ces 13 citations, 6 sont introduites de manière indirecte, avec des amorces telles comme, je cite, « comme le dit le satiriste, comme l'a dit le poète ». C'est une constante que nous avons retrouvée tout au long de l'ouvrage, puisque Gérald ne citera que quelques références complètes, c'est-à-dire le nom de l'auteur et le nom de l'ouvrage. Cette imprécision entretient un peu plus le doute sur ses sources. En réalité, nous pouvons relever 5 types de traitements. La citation incomplète, noyée totalement dans le texte de Gérald, que l'on ne distingue que lorsqu'on est particulièrement lettré. La citation mot pour mot, avec parfois quelques approximations, sans nommer l'auteur. La citation avec une amorce, telle celle que je viens de vous citer, le poète, le satiriste, etc. La citation avec le nom de l'auteur clairement donné, mais sans le titre de l'ouvrage. Et enfin, la citation de l'auteur et le titre de l'ouvrage dont elle est extraite, ces dernières configurations n'ayant, comme nous l'avons déjà souligné, eu lieu que très rarement. La majorité des citations est soit noyée dans la masse du récit, soit introduite de manière indirecte. Gérald gomment habilement, si ce n'est volontairement, son endettement envers ses prédécesseurs. Le fit-il de manière volontaire, dans un but précis, rien n'est moins sûr. Gérald est sans nul doute un lettré, et en tant que lettré, s'adressant à d'autres lettrés, il tenait sans doute pour acquis que ses sources seraient identifiables sans difficulté par la plupart de ses lecteurs. Quoi qu'il en soit, le but de ces citations, qu'elles soient cachées ou non, restait de crédibiliser son livre et sa démarche, pas de rendre hommage aux anciens. Gérald présente une autre particularité inhérente à la spécificité ethnologique que présentent ses ouvrages, et en particulier celui qui nous intéresse aujourd'hui. Gérald, lorsqu'il donne des éléments géographiques et ou historiques sur les contrées traversées, ne nous précise jamais comment il a obtenu les informations en question. Nous assistons au même phénomène lorsque Gérald s'appesantit sur la vie et l'œuvre de certains de ses contemporains, ou un personnage d'un haut rang d'un passé proche. Alors qu'il se répand abondamment parfois en détail, il ne nous indique pas s'il a lui-même été témoin direct d'un événement, ou si on le lui a rapporté, et si du coup ses sources sont fiables. Une nouvelle fois, l'imprécision domine. Le chroniqueur utilise des expressions comme, je cite, « les paroles des protagonistes, les badauds, les spectateurs, ou encore les habitants de la région vous assureront que... » Gérald déroge néanmoins à la règle à 2 reprises. Il nous rapporte en effet le rêve prémonitoire d'Hugues sur la spoliation d'un bien, puisqu'il explique qu'Hugues vint le trouver lui-même, Gérald, à Liandu, pour lui raconter son rêve. Et là, un phénomène étrange se produit dans le récit. Tout au long de son explication, Gérald parle de lui-même à la troisième personne du singulier, se détachant ainsi totalement du récit qu'il rapporte et dont il a été témoin. Alors qu'il aurait pu enfin adopter un point de vue clair par rapport à sa source, il brouille les pistes une nouvelle fois. Un peu plus loin, Gérald nous confie avoir eu vent de l'histoire par un homme qu'il rencontra âgé et qui lui livra son récit. Récit qu'il avait également livré à David II, donc évêque de Saint-David's, de 1148 à 1179. Thorpe suppose que Gérald assista à certains événements qu'il décrit avec moult détails, notamment certaines fêtes traditionnelles, mais nous ne pouvons en être sûrs puisque Gérald ne nous l'indique pas lui-même. On aurait très bien pu lui rapporter ces fêtes traditionnelles. Mais Gérald va plus loin. Alors qu'il rapporte un certain nombre d'éléments, il va jusqu'à citer les protagonistes mot pour mot. Alors que Maël est blessé lors, un des personnages de l'histoire, est blessé lors de l'incendie du château de Branlis, il appelle l'évêque. Gérald cite alors Maël, alors qu'il s'adresse à l'évêque. Je cite « Ô père, se lamenta-t-il, saint évêque, votre saint a exercé une vengeance particulièrement cruelle. Il ne m'a pas laissé le temps de me repentir, misérable pécheur que je suis. Au contraire, il n'a pas perdu de temps en causant ma mort et ma destruction. » Gérald a-t-il été présent? A-t-il recueilli ce texte de la part de l'évêque en question? D'autres témoins accompagnant l'évêque ou de l'entourage de Maël? Il ne nous le précise pas. Ce phénomène, citer les paroles des protagonistes, sans que nous ne sachions si Gérald a assisté à l'événement ou si quelqu'un, et qui, dans ce cas, le lui a rapporté, se produit à plusieurs reprises. Le chroniqueur n'émet des doutes sur ce type de source qu'à une seule reprise. Je cite « Il est supposé avoir dit que ». Néanmoins, Gérald fait parfois l'effort de nous livrer sa source. Il a été témoin de la scène qu'il décrit. Ce phénomène apparaît 4 fois, ce qui est bien peu pour un ouvrage qui comporte autant de faits précis et de citations diverses. Mais si Gérald ne nous livre que peu ses sources, niant tacitement un quelconque endettement envers les anciens, il s'affirme en tant qu'auteur unique et revendique indirectement un non-endettement, une non-influence de la part de l'extérieur. Intéressons-nous à présent à la voix de l'auteur. In Gerald's case, we can hear his voice. Cette citation de Bartlett ouvrira notre dernière partie. Si Bartlett le souligne, c'est bien parce que ce n'est pas si habituel chez les chroniqueurs de cette époque, plus habitués à rapporter de façon purement factuelle une liste d'éléments historiques tels Ralph of Diceto, Ralph of Gogershall ou Roger of Evden. On pourrait en citer beaucoup d'autres. Rares sont les chroniques dans lesquelles la voix de l'auteur se laisse entendre. Gérald déroge clairement à la règle, sans doute de par la nature même de ses ouvrages. Si nous revenons sur le prologue, il est plus que logique dans cette partie de trouver les expressions personnelles, puisque c'est dans cet endroit, par excellence, que s'exprime l'auteur et dans lequel il dédicace son ouvrage. Comme nous l'avons vu, Gérald ne déroge pas à la règle. Et pourtant, chez Gérald, la dédicace prend une autre dimension. Si l'on trouve souvent une adresse à un grand du royaume, louant ses bienfaits, espérant de nouvelles grâces après cette dédicace, Gérald introduit d'autres éléments que l'on trouve difficilement dans d'autres ouvrages de la même époque. On peut ainsi lire, je cite, « Je vous dédicace ce travail, loin d'être insignifiant ». Gérald porte donc une haute estime à son propre travail, alors que la plupart des chroniqueurs jouent au contraire la sobriété et la retenue en accord avec leur position ecclésiastique. On trouve un peu plus loin, je cite, « J'espère que ces plus petits travaux pourront le faire, vous intéresser, je le répète, si bien qu'ils pourront en une fois me permettre d'obtenir quelques récompenses de votre part, et je vous exprime d'ores et déjà ma gratitude pour cela. » Gérald se fait plus classique dans sa seconde préface lorsqu'il dit, je cite, « Étienne, archevêque de Canterbury, homme de grand renom, tout ceci je le dédicace à vous et aux générations futures. » Gérald loue son dédicataire et espère que son lectorat s'étendra sur plusieurs générations, ce en quoi Gérald ne se trompa pas forcément. Cette préoccupation, nous pouvons la retrouver au fil de sa préface, puisqu'il l'évoque à 4 autres reprises. 2 fois directement à l'adresse de son dédicataire et 2 fois à l'adresse de son lectorat en général. Mais Gérald a un autre souci, ne pas le perdre, ce fameux lectorat. Ainsi, au fil de son ouvrage, nous trouvons une idée récurrente. Je cite « Je retourne à mon argument précédent, je dois à présent reprendre mon récit, je dois à présent arrêter cette diversion et revenir à mon voyage, à présent je dois revenir à mon voyage. » Gérald, roi incontesté des digressions, semble en être conscient et être attentif à ne pas perdre son lecteur et à le ramener à son propos principal. Intéressons-nous maintenant à la voix de Gérald. Les « je » sont légion dans l'ouvrage. 90 occurrences tout au long de l'ouvrage et 3 expressions personnelles, je cite « Ma seule retenue est que, pour ma part, j'aurais dit que, et à mon avis ». Gérald a tout d'abord le souci de ponctuer son récit d'expressions telles que « comme je vous l'ai dit » ou encore « comme je viens de vous le décrire ». On peut ainsi relever 17 expressions plus ou moins approchantes. Ce processus narratif, inhabituel à cette époque, rend le récit particulièrement vivant et interpelle directement, indirectement, voire directement quand le pronom personnel objet s'adresse au lecteur, régulièrement le lectorat. Cet aspect oralisant est à mettre en relation avec les habitudes de l'époque. Comme nous le signale Gérald lui-même dans son livre, l'évêque Baldwin se fait lire son ouvrage à haute voix. Par ce procédé, Gérald reste omniprésent, voire omnipotent, tout au long de son ouvrage. Il est à noter que ces expressions apparaissent le plus souvent dans les passages de récits historiques, dans les fameuses digressions de Gérald, qu'au moment où celui-ci nous rapporte son voyage à proprement parler, et apparaissent de manière assez groupée, si on se réfère aux chapitres dans lesquels elles sont présentes, à savoir 8 chapitres sur la totalité de l'ouvrage, et 17 acceptions au total, principalement concentrées dans le livre 1, chapitre 12. Mais la voix de Gérald se fait entendre bien plus fortement tout au long de son ouvrage, lorsque ce dernier exprime clairement son opinion par des expressions comme « j'ai pensé pertinent de »,« je dois vous raconter », ou du moins « le crois-je ». Dans ces expressions, Gérald expose clairement des choix d'auteur, une partialité totalement assumée, rare dans une époque où la classe sociale prévaut sur l'individualité. L'expression de la volonté et de l'obligation reviennent à 7 reprises. L'emploi d'expressions telles que « j'ai décidé », dans ce dernier, j'ai fait le portrait. Cela mérite d'être ajouté, ou du moins je le pense. Cela me pousse à penser. Il nous présente également des points qu'il veut absolument nous livrer. Je cite, j'ai pensé que cela serait une bonne idée. De tous les événements miraculeux que vous allez pouvoir lire dans cet ouvrage, 3 sont particulièrement remarquables à mes yeux. Cela mérite d'être mentionné, ou du moins je le pense. Si Gérald nous décrit avec enthousiasme certains faits, il peut aussi faire preuve de retenue, voire d'autocensure. Ainsi trouve-t-on, je cite, « je ne veux offenser personne », en l'occurrence dans l'ouvrage ni les cisterciens ni les clunisiens, « mais je ne peux dire que ce que je pense ». Par cette première citation, Gérald tente d'excuser ses propos ou de les justifier. Dans cette autre citation, un autre aspect apparaît, je cite, « j'ai trouvé plus opportun de ne pas raconter ces faits en détail, de peur qu'ils ne servent à encourager d'autres hommes tout aussi infâmes ». Un second exemple vient conforter cette tendance, celle de ne pas vouloir encourager les mauvais comportements. Ainsi trouve-t-on, je cite, « de plus, je suis arrivé à la conclusion que pour le moment du moins, il ne vaut mieux pas en dire plus à propos de cette lamentable affaire, par peur d'exaspérer ce peuple malfaisant ». Celle-ci apparaît aussi dans d'autres ouvrages de Gérald, notamment lorsqu'il parle des ouvrages de Geoffrey of Monmouth. Et Gérald se fait parfois lyrique lorsqu'il exprime ses sentiments, comme au livre 1, chapitre 10, je cite, « ma plume tremble dans ma main alors que je pense à la terrible vengeance qu'exerça de notre temps les troupes du roi contre les sujets du Comot de Caio à Cantref Mow, désolé pour ma prononciation galloise toujours aussi affreuse, et je me souviens de ces lignes. Il s'affirme enfin lorsqu'il nous déclare, je cite, « c'était une urgente admonition qui m'avait été donnée, quelque temps auparavant, par le roi, qui m'inspira pour montrer l'exemple aux autres. » Mais il ajoute un petit peu plus loin, « j'ai agi de ma propre volonté. » Gérald nous rappelle à cette occasion qu'il est un « royal servant », mais également un homme qui prend ses propres décisions. Mais alors que Gérald se révèle être le roi des digressions, il lui arrive également de savoir faire court, vouloir à défaut de le faire vraiment. Il nous déclare ainsi à 3 reprises. Il nous le déclare ainsi à 3 reprises. Gérald mène son récit où bon lui semble, donnant son avis, développant un point ou un autre de manière arbitraire, censurant quand il le juge pertinent. Il nous avoue aussi à 2 reprises son ignorance en ces termes. Je cite, si vous le demandez, je ne sais pas quoi répondre. Et un peu plus loin, je peux seulement répondre sur ce que je connais. Enfin, Gérald se livre personnellement lorsqu'il nous raconte au livre 1, chapitre 3, je cite, « moi-même, j'ai été nommé à un poste de quelque importance. J'occupais une toute petite maison, pas très loin du principal château de Breconshire, et en fait, juste à côté de celui-ci. » Puis un peu plus loin, nous pouvons lire au livre 1, chapitre 12, je cite, « vous ne serez pas surpris de m'entendre prodiguer de telles louanges à son propos quand je vous dirai que c'est de là que ma propre famille est issue et que c'est là que je suis moi-même née. » Je ne peux que vous demander de me pardonner. La voix de Gérald se fait sans nul doute entendre tout au long de son ouvrage, voix d'un homme, dans ses faiblesses et dans sa volonté, dans ses incertitudes et dans ses ambiguïtés. Que pouvons-nous conclure de cette analyse ? Eh bien, une première constante tout d'abord. Gérald ne revendique que rarement clairement ses sources, qu'elles soient des passages de grands auteurs ou les témoins de divers événements contemporains. Gérald ne s'explique point et nous pouvons y voir une particularité touche géraldienne. Le chroniqueur est donc bien lourdement endetté sur ce point, peut-être encore plus puisqu'il ne revendique pas ses sources. D'un autre côté, beaucoup de ces citations restent introuvables. Est-ce une erreur de référencement ? Thorpe en a relevé deux. Est-ce un échec des différents chercheurs ayant travaillé sur l'œuvre de Gérald à n'avoir pas su identifier certains passages ? Sont-ce des ouvrages disparus ? Nous ne pouvons pas le savoir en l'état actuel des recherches. Mais ce qui est peut-être particulièrement géraldin, c'est cet auto-endettement, ses références continuelles à ses propres ouvrages, à sa propre œuvre et à sa propre voix. S'il était un de mes étudiants, ou si l'on passait ses ouvrages à un logiciel de plagiat, notre brave Gérald se ferait renvoyer sans nul doute dans les cordes immédiatement. Mais l'évidence est là, c'est un auteur que l'on lit, pas un homme au service d'un autre qui répond à des standards ou à des commandes. Il sera bien sûr intéressant d'examiner les autres ouvrages de Gérald pour vérifier si ses premières pistes se confirment, mais le temps qui m'est imparti étant terminé, je le réserve pour une autre communication. Je terminerai donc seulement par cette citation de Bartlett qui me semble bien résumer l'homme autant que l'auteur. « He was a child of a frontier society at the age of feudal Europe, a Paris-trained master, humanist, rural servant, cour littérateur, historian and naturalist. A study of his thought throws light on many of the complex processes of the 12th century society. » Je vous remercie.